Bon, bah, bonjour et bienvenue à cette table ronde consacrée à un sujet presque classique quand on parle de fantasy, celui de la place et du rôle de la figure tutélaire du grand Tolkien dans les œuvres de romanciers et de chercheurs qui sont réunis autour de cette table, enfin le long de cette table. Donc je commence par Francis Berthelot, qu'on ne présente pour ainsi dire plus dans ce festival.
Hi everybody.
Donc il est à la tête, comme chacun le sait, donc, d'une œuvre importante et singulière dans le champ de l'imaginaire français, avec un parcours qui l'a mené à écrire une des premières fantaisies, une des premières trilogies.
Non, c'était un diptyque, madame.
Ah bon, Canaor, un diptyque?
C'était un diptyque, ouais. Uh-huh. Ouais, c'était en deux volumes.
D'accord, d'abord. Je l'ai lu en un seul.
Ah ouais, voilà. Mais ça change.
Alors un diptyque de fantaisie française qui s'appelait donc...
Canaor.
Ça, c'est bon. À partir de 83, donc vraiment un des pionniers.
C'était très mal vu à l'époque.
Il a fait partie des membres actifs du groupe Limite dans les années 90.
Qui était aussi très mal vu.
Cherchait un chemin nouveau entre SF et mainstream. Alors qu'il a pour sa part théorisé sous le nom de transfiction dans son essai Bibliothèque de l'Entremonde et qu'il a mis en pratique dans son œuvre sous le nom de Merveilleux Noir, en particulier dans son grand œuvre qu'est le cycle du Démiurge qui comporte 8 volumes depuis 1994, 9
9 en tout quand il sera réédité chez le Bélial incessamment sous peu avant la fin du siècle, on ne sait pas trop.
Le dernier, c'était Carnaval sans roi en 2011 chez Rivière Blanche.
Voilà.
Donc, il nous éclairera sur l'éventuelle, quoique pas évidente, nature tolkienienne de ses ouvrages ou de son inspiration. Alors, Régis Godin, à l'autre extrémité, et pour sa part davantage une découverte qu'on a plaisir à accueillir cette année, puisqu'il vient de, il vient présenter son premier ouvrage, enfin plutôt le premier tome d'une saga prévue en 7 tomes, pour 7 tomes pour 7 royaumes, Le Sang des 7 Rois, donc une saga d'univers très travaillée qui est parue il y a quelques mois chez La Talente. Alors, Édouard Klochko, pour lui, la question... de Tolkien ne se pose pas vraiment, puisqu'il est un érudit spécialiste de Tolkien. Alors avant tout, des langues inventées par le romancier anglais, auquel il a consacré plusieurs ouvrages, un dictionnaire des langues elfiques, un dictionnaire des autres langues, donc Hobbit, Nain, et Orc, aux éditions Tamise. Son dernier ouvrage est une méthode d'apprentissage, le haut elfique pour débutants.
Oui et non, c'est même... Disons, le titre se veut ludique, mais c'est en fait une remise à plat et une mise à jour du dictionnaire des langues elfiques de 95.
C'est un spécialiste aussi plus largement de l'univers que Tolkien a développé pour y faire vivre ses langues, donc la Terre du Milieu, Arda. Donc il est l'auteur de cette encyclopédie des elfes au Pré-au-Clair et d'un beau livre illustré chez Ozu qui s'appelle Le Monde Magique de Tolkien. Et enfin... Ken Scholes, bienvenue, qui avait reçu ici le prix du meilleur roman étranger en 2011 pour le premier tome des Psaumes d'Isaac, Lamentation, paru chez Bragelonne. Yeah. Depuis donc ce cycle situé qui raconte des aventures au sein d'un monde qui s'appelle les Terres Nommées où se croisent de nombreux personnages formidables, donc dans ce qui ressemble à un monde de fantasy mais qui semble en réalité bien être un futur post-apocalyptique dont on a perdu toute connaissance. Donc ce cycle s'est enrichi de 3 volumes supplémentaires en traduction et 4 en langue originale, donc ça fait 5 pour le moment. Ken Scholes est aussi un auteur réputé pour ses nouvelles qui ont été réunies en plusieurs recueils. Donc voilà un panel diversifié avec lequel on va s'intéresser à la place qu'occupe ou non Tolkien donc dans leur œuvre en cette année 2013 qui une fois de plus a été riche en événements tolkieniens avec la sortie du premier film adapté du Hobbit qui même si elle n'a pas fait l'unanimité critique a relancé donc une fois de plus la machine médiatique autour du nom de Tolkien. ce nom dont il faut bien reconnaître qu'il continue à incarner trois quarts de siècle après, hein, puisque Le Hobbit, c'est un roman qui est sorti en 1937. Donc 75 ans après, Tolkien continue à incarner la fantasy auprès du grand public, qui souvent ne connaît rien d'autre que ce nom-là. Donc est-ce que cette place si hégémonique vous semble justifiée ou un peu écrasante? En tout cas, est-ce qu'elle correspond à votre perception du genre, hein, ou à la place qu'occupe Tolkien dans votre histoire, dans votre imaginaire? Voilà, c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Alors je vais commencer par... Régis Godin.
Bonjour.
Est-ce que vous revendiqueriez Tolkien comme une de vos influences?
Je pense qu'il est difficile, quand on écrit de la fantasy de manière générale, de ne pas penser à Tolkien, parce que ça fait partie des figures tutélaires quand même du genre. Et c'est sûr que les arbres, de toute façon, ne poussent pas dans le vide. Hein, d'un autre côté, s'il y a une parité, il y a aussi parfois nécessité de tuer le père. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est d'une présence qui peut être un peu étouffante, mais c'est un petit peu comme J.K. Rowling, un peu sous un autre... C'est-à-dire que ce sont des très gros blocs culturels et commerciaux qui, à la fois, étouffent un petit peu la création contemporaine, mais en même temps, sans eux, naturellement, je pense que ce serait beaucoup plus difficile d'exister encore. Parce qu'ils tirent complètement, finalement, un public vers ces genres, vers ces genres littéraires. Par exemple, pour ce qui est de mon expérience personnelle, moi, j'écris de manière très récente. Hein, il y a 3 ans, je n'avais pas écrit une ligne, même pas un poème, en classe de 3e. Ce qui m'a ramené vers la fantasy, de manière générale, c'est quand même le film de Peter Jackson. C'est-à-dire que c'est en allant voir les films de Peter Jackson que je me suis dit, c'est vrai, j'ai toujours entendu parler de Tolkien, je ne l'ai jamais lu. On m'a offert ce livre à la suite, j'ai lu donc le livre, et puis ça m'a donné envie d'aller plus loin. Et d'aller découvrir d'autres auteurs comme Gérard Martin, Megan Lindholm, etc., des gens dont j'ignorais complètement l'existence. Et à la fois, c'est vrai que quand on est dedans, on peut sentir le poids un peu écrasant de ces grands écrivains, grands auteurs, mais en même temps, s'ils n'existaient pas, on n'y serait peut-être pas venu, et peut-être que d'autres lecteurs n'y seraient pas venus, ce qui fait que c'est forcément extrêmement ambigu comme positionnement. Voilà.
Oui, donc Tolkien a encore, pour vous, fait office de porte d'entrée dans le genre, qui est effectivement un rôle qu'il occupe.
Incontestablement. C'est-à-dire que c'est vrai que on peut critiquer finalement ces grosses sorties médiatiques, mais indéniablement, ça draine quand même des intérêts et ça attire quand même vers d'autres auteurs plus confidentiels, même si ça les écrase un peu d'un autre côté.
Confidentiel ou non, vous venez de citer George Martin.
Oui,
je pense
bien sûr,
que son influence est plus lisible chez vous.
Ah oui, nettement, ouais. Parce que on a
c'est
quand même.
C'est un peu son concurrent principal en ce moment.
Oui, mais bon, on joue pas non plus dans les mêmes catégories. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut des auteurs à tous les niveaux, c'est-à-dire interrégional, national, international. C'est comme au foot un peu. Hein. Donc, mais George Martin, oui, parce que finalement, il propose aussi une fantaisie qui est beaucoup plus ouverte, hein, dans laquelle on a moins cette dialectique du bien, du mal, le mal absolu dont on ne sait pas pourquoi Sauron est méchant. On ne connaît pas son enfance, on ne connaît pas sa psychologie, c'est le mal incarné en quelque sorte. Et donc à partir de ce moment-là, c'est vrai que Gérard Martin nous propose une structure de récit qui est beaucoup plus proche de l'idée qu'on se fait aujourd'hui des êtres humains. C'est-à-dire que les gens ont une histoire, les gens vont avoir des raisons pour être devenus ce qu'ils sont devenus. Et de ce côté-là, je pense que je me sens beaucoup plus proche de Gérard Martin que de Tolkien, de par son univers plus dépouillé également. Parce que le fait que Tolkien soit peut-être allé chercher un petit peu on sait qu'il était allé chercher dans beaucoup de traditions et qu'il a fait un travail de rassemblement, en quelque sorte, un petit peu d'idées, de concepts, c'est aussi le cas chez Gérard Martin, mais avec beaucoup plus de distance, avec une histoire qui est beaucoup moins commandée par, justement, son univers. Hein, un univers qui est plus neutre, dans lequel il va pouvoir jouer d'une manière un peu plus libre, je pense, que dans cette dialectique, forcément, du bien et du mal, du noir et du blanc, etc. Voilà. Donc, effectivement, je me sens plus proche de ces littératures plus contemporaines. Effectivement.
Mais pour une question à la fois de psychologie et d'univers, que je pense que c'est des aspects qu'on retrouve chez vous, Ken. Alors, je trouve, pour ma part, vos romans assez peu tolkiniens, eux aussi. Mais on tend à vous rattacher quand même à une grande tradition de la fantasy épique. Et puis votre intrigue s'organise autour d'une structure de quête, hein, d'une quête du savoir perdu après la, la destruction inaugurale de la bibliothèque. Alors comment est-ce que vous abordez le genre épique et certains des grands motifs, comme ça, par exemple la quête, mais il y en a peut-être d'autres, quand on vient non seulement après Tolkien, mais bien après Tolkien, hein, comme c'est le cas de Régis, c'est après Tolkien et puis après tous les successeurs de Tolkien qui ont déjà bien épuisé ces motifs. In a kind of a epic fantasy, long, long, long after Tolkien and after other writers who wrote this kind of novels.
I was introduced to Tolkien as a small child. My school librarian recommended that I take The Hobbit from her library.
Alors en fait, un deux. Ça fonctionne?
Non.
Ah, là ça devrait.
C'est bon.
Là j'ai le vert. I got the green. Donc en fait moi j'ai découvert Tolkien alors que j'étais gamin. Et en fait, c'est le bibliothécaire de mon école qui m'a conseillé de lire Le Hobbit.
And I knew nothing of his. I knew nothing about him. I thought that the book would be about a little old man with a cane, because Hobbit and Hobble are very similar in English.
Alors moi, en fait, je connaissais pas du tout le genre. Je connaissais pas Tolkien. Et même en plus, quand j'ai vu le roman, j'ai cru que ça parlerait d'un vieil homme avec une canne, parce qu'en fait, il y a deux mots qui sont assez Hobbit et Hobble qui est la personne donc avec sa canne. Donc j'avais même pas compris ce que c'était qu'un Hobbit.
And I opened the book and I started to read and I couldn't stop. I found myself sitting on the roof of a school. Reading The Hobbit as quickly as I could, and to this day, it's my favorite book.
Et en fait, j'ai ouvert le bouquin, j'ai mis le nez dedans et j'ai pas pu m'arrêter. Donc, je me suis retrouvée sur le toit de l'école en train de lire Le Hobbit aussi vite que je le pouvais parce que j'arrivais pas à m'arrêter et je voulais voir ce qu'il y avait après. Et pour moi, ça reste encore un grand souvenir et ça reste finalement quasiment le meilleur livre de fantasy que j'ai jamais lu.
And then I tried to read The Lord of the Rings.
Ensuite, j'ai essayé de lire Le Seigneur des Anneaux.
And I couldn't finish it until I was in my 20s.
Et j'ai pas pu le finir avant finalement d'avoir à peu près une vingtaine d'années.
But from his position in the history of fantasy, there's absolutely no question that Tolkien is a major influence. For me, I consider him one of many. I also think that if he's the father of epic fantasy, Homer is probably the great grandfather. With the quest and the battles and all of these things, but in my own expression, I also found Frank Herbert to be a big influence, and other writers that captured me in my youth, like Susan Cooper's Dark is Rising. But I still see the pattern of what he's done, and I see what it's how many people it's been a gateway. For many people to come into fantasy, both as readers and as writers. And I respect that he also was writing in a specific time and place in the world that's not the same as now. If we were to try to write it now, I would hope for more trees, or more less trees and more women. But at the same time, he's, again, big worlds, grand quests, magic rings. It's great. I found the books difficult to read in the 1980s as a young boy.
Alors en fait, quant à venir à la question de Tolkien, bien évidemment, Tolkien c'est un maître du genre, c'est un incontournable, et on peut vraiment le qualifier de père de la fantasy. Mais si on peut le qualifier de père de la fantasy, dans ce cas-là, on pourrait citer Homer, qui serait l'arrière-grand-père de la fantasy. Parce qu'il y a des quêtes, il y a des batailles, on est déjà là dans quelque chose d'épique. Il y a d'autres influences aussi, Frank Herbert, et on peut en citer un certain nombre. Mais bien évidemment, Tolkien, c'est une porte d'entrée pour de nombreux lecteurs ou de nombreux auteurs pour aller vers la fantasy. Mais en même temps, Tolkien, c'était quelqu'un qui a écrit à une époque et à un endroit spécifique et qui a donc donné une certaine forme de vision. Et effectivement, s'il écrivait aujourd'hui, peut-être qu'il écrirait pas tout à fait la même chose et peut-être qu'il mettrait moins d'arbres et plus de femmes dans ses bouquins. Mais voilà, enfin, il n'empêche que voilà, Tolkien, c'est quelqu'un d'extrêmement marquant. et que moi j'ai vraiment pu aborder de façon complète lorsque j'étais jeune adulte.
Edouard, tu avais quelque chose à...
Oui, je voulais dire que Tolkien était obsédé par les arbres. Il a déclaré plusieurs fois, surtout dans une interview filmée, qu'il aurait voulu communiquer avec les arbres, que c'était son plus grand rêve, d'où la très grande présence des arbres dans l'œuvre en général.
Alors, Edouard Glosco, en tant que spécialiste de l'elfique et donc du monde tolkienien davantage, sous son versant philologique, donc qui n'est pas évidemment le plus narratif.
Oui, tout à fait. J'ai une position tout à fait différente des écrivains auxquels je suis entouré.
Est-ce que vous lisez de la fantasy?
Alors, je vais répondre très franchement, non. Je fais comme Tolkien qui lisait de la science-fiction. Voilà, donc Tolkien a dit d'ailleurs dans une lettre inédite qu'il n'aimait pas Frank Herbert parce qu'il avait lu Dune et qu'il trouvait qu'ils étaient dans le même chemin et qu'il l'écrivait dans le même ordre et que justement Dune était quelque chose de très différent de sa position. Donc voilà, je crois que là ça permet de recentrer un petit peu Tolkien effectivement. Je voudrais rebondir aussi sur Sauron ou Sauron comme on veut. Donc en fait on a la jeunesse de Sauron, il s'appelait Myron. Quand il ne s'appelait pas Sauron. Et en fait, c'est un ange déchu, donc ce n'est pas ni un elfe, ni un hobbit. Donc il a une personnalité très particulière, il fait partie de tout un panthéon divin, d'où effectivement son incarnation totale effectivement du mal. Mais comme on l'a dit, à l'origine, il ne l'était pas. Il a eu donc une chute. Il était le numéro 2 d'un dieu qui s'appelle Aulë, qui est donc le dieu de la forge, de la construction. Voilà.
Est-ce que vous voyez l'influence de Tolkien sur... pas la fantasy que vous ne lisez pas, mais la culture fantasy qui se développe autour de vous.
Je dirais que Martine, hein, pour reprendre ce qu'on est... enfin, peut-être certains sont en train de suivre les épisodes qui passent à la télévision en ce moment de la série. Donc effectivement, je pense qu'un de ses apports, je ne veux pas me travailler pour ma chapelle, c'est effectivement la présence omniprésente, si je peux faire cette pléonasme, des langues imaginaires dans les mondes fantasy. Il est désormais impossible de ne pas faire un monde fantasy à la manière d'eux, c'est-à-dire il faut au moins quelques mots imaginaires, si possible une langue, une carte et des noms étranges. Et ça, c'est en fait un cadre, je dirais, que malheureusement, les écrivains fantasy ont du mal en général à briser. Ce que je trouve d'ailleurs assez dommage. Je pense qu'il faut effectivement essayer de sortir de ce cadre qui est très pesant. Moi qui le vois de l'extérieur, c'est pour ça que je lis peu de fantasy. J'ai à chaque fois l'impression, enfin très souvent, pas toujours, il ne faut pas exagérer, mais très souvent j'ai l'impression d'ouvrir un énième épisode du Seigneur des Anneaux qui se passe avant ou après la quête. Donc c'est extrêmement pénible pour moi. Donc voilà, j'ouvre, je vois une carte, je vois des noms tarabiscotés, deux ou trois phrases, je me dis... encore une aventure avec un méchant et une quête. Bon, voilà, et ça va bien se terminer. Donc j'espère effectivement, de temps en temps, bien entendu, il y a des écrivains qui sortent du lot et qui sortent justement de ce cadre. J'espère effectivement que le poids pesant de Tolkien s'en ira avec le temps et qu'il y aura de plus en plus de personnes qui feront des romans, effectivement, qui n'auront pas ces certaines nécessités, la quête, le méchant, l'anneau, enfin, voilà quoi, je dirais que c'est un petit peu, effectivement, on tombe dans certains travers. Tolkien, lui, il a mis 15 ans à écrire son œuvre, donc c'était vraiment un travail très, très particulier, et effectivement, ses romans ne sont que le haut de l'iceberg des écrits tolkieniens, en fait, et représentent un travail très abouti, alors qu'il y a une montagne, des tonnes et des tonnes d'écrits qui n'ont aucun rapport avec le roman. Par exemple, il y a des écrits très précis sur l'origine de tel fleuve, sur pourquoi telle colline s'appelle comme ça, etc. Des choses qui ne sont absolument pas romancées, mais sur lesquelles Tolkien a énormément travaillé et qu'il n'a jamais publié de sa vie. Donc, on peut pas difficilement le classer en tant qu'écrivain. C'était vraiment un philologue passionné par les noms et qui s'est trouvé embarqué dans l'écriture d'un roman et de sa suite, et qui a marqué son temps.
Bah, vous n'êtes guère donc positif sur l'héritage direct de Tolkien. Bon, alors c'est vraiment la question des conventions qui sont à l'œuvre au sein d'un genre et qui font aussi son charme pour ceux qui l'apprécient. Donc je serais pas aussi dur que vous, mais et surtout à ce moment-là, comment l'elfique peut vivre s'il n'y a pas si le monde de Tolkien, l'elfique, qui est votre sujet de...
Alors, je dirais l'avantage des langues, qu'elles soient imaginaires ou naturelles, si elles sont suffisamment travaillées, c'est que les langues peuvent vivre totalement en dehors de l'univers. Il n'y a aucune nécessité qu'elles vivent à l'intérieur. Pour le moment, la totalité des écrits n'est pas encore entièrement publiée, donc il y a encore des pans de compréhension tout simplement grammaticale qui ne sont pas complètes. Mais une fois la totalité des écrits de Tolkien sur ses grammaires et ses langues elfiques publiées, les langues elfiques seront utilisables, je dirais, dans n'importe quelle circonstance, même si, bien entendu, téléphone portable n'a pas été inventé par Tolkien. Donc il y aura bien entendu des problèmes de néologisme, mais c'est bien les seuls, hein.
De police de caractère, mais non. Ça a été réglé il y a longtemps.
Voilà, on écrit en hindi, ça ne pose pas de problème. Donc, les caractères elfiques, on trouve désormais sur Internet. Et heureusement, il y a des gens qui se sont chargés pour faire des jolis petits caractères elfiques. Donc, c'est difficile à les utiliser, mais on peut tout à fait écrire. Donc, je dirais oui, ma position est un petit peu particulière. Je n'essaye pas de prêcher pour quelque chose que j'écris. Je ne me lancerai jamais, je pense, dans l'écriture. Je trouve ça excessivement complexe. Donc moi, je fais le Richard Burton, pas l'acteur, hein, l'explorateur du 19e siècle. Voilà, donc mon rôle, je le vois plutôt de cette manière-là. J'essaie d'emmener les gens dans des coins peu connus de l'imaginaire tolkienien, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les romans. Les romans constituent vraiment, je dirais, des toutes petites facettes. Moi, ce qui m'a passionné dans ces romans, c'est les appendices. Voilà. Beaucoup plus que l'histoire en elle-même, que j'ai lu plein de fois, que j'apprécie, mais les appendices, j'aime beaucoup. Voilà.
Vous, Francis Berthelot, est-ce que vous aimez Tolkien ? Est-ce que vous aimez l'histoire ou le monde ?
Non, mais allô, quoi ! C'est comme si tu me dis, tu es un auteur de mélo, et est-ce que tu as été influencé par les oraisons funèbres de Bossuet ? Non, je suis pas du tout influencé par Tolkien. Non, je n'aime pas Tolkien. Quand j'ai écrit Canaor en 83, je me suis dit... Bon, j'avais déjà lu Bilbo le Hobbit, que j'avais trouvé gentil, mais bon, pas plus que ça. Je me suis dit, il faut quand même que je lise une fantasy pour savoir ce que c'est. Alors j'ai lu les deux premiers tomes du Seigneur des Anneaux, et les bras m'en sont tombés, et je me suis dit, bon, voilà, j'ai compris ce que c'est, et ce que je veux faire, c'est exactement le contraire. Parce qu'il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de sexe, tout ça c'est lisse, c'est verbeux, c'est... Donc, voilà. Tolkien, pour moi, il a plutôt agi comme répulsif. Et d'ailleurs... toutes les conventions dont vous parliez, tant dans la science-fiction que dans l'heroic fantasy, moi, c'est ce que j'appelle de la quincaillerie. Et c'est ce qui m'a amené à arrêter d'écrire dans ces genres, parce que tu le fais une fois, d'accord, c'est amusant, tu vas pas le faire deux fois, ça n'a aucun intérêt. Quand j'ai écrit La Lune Noire d'Orion, j'ai fait un dictionnaire à la fin, comme Dune, justement. Tu fais cette connerie quand t'es jeune, parce que c'est amusant, mais tu vas pas faire un dictionnaire à la fin de chacun de tes bouquins. Dans Canaor, j'ai mis une carte. Je suis désolé, mais bon, c'était un roman aussi construit
sur... C'était au début.
C'était d'abord, oui. Puis c'était un roman construit sur quatre pays différents qui correspondaient aux quatre joueurs, aux quatre couleurs du jeu de cartes, enfin. Et les noms des personnages étaient des anagrammes, des figures, roi, reine, valet. Du jeu de cartes, donc tout ça avait une logique interne qui ne doit rien à Papa Tolkien. Voilà, merci.
Mais dans l'ambition de déployer un cycle, moi je pense qu'il y a...
C'était pas un cycle.
Non, mais dans le...
C'était pas du tout un cycle, Canaor. Canaor, c'était un roman qui était en deux parties.
Dans le Démiurge.
Ah ben le Démiurge, c'était pas un cycle non plus au début.
D'accord.
Alors le rêve du Démiurge, c'est un premier roman, puis un deuxième roman qui n'avait rien à voir, qui était des romans réalistes. Et puis j'avais pas dit tout ce que je voulais dire sur les personnages. Alors j'ai écrit un troisième roman qui prenait des personnages de l'un et de l'autre comme ils étaient compatibles au point de vue de la chronologie, et j'ai raconté la suite de leur histoire. Et j'ai fait basculer ça parce que je trouvais le réalisme un peu trop contraignant. J'ai introduit des éléments surnaturels. Et arrivé au troisième, je me suis dit, ah, mais j'ai encore celui-là dont je voudrais bien raconter l'histoire. Et donc, il y a eu un quatrième tome. puis bon, il fallait encore un cinquième, et puis finalement je me dis, mais ça va où tout ça? Et j'ai suivi la logique des personnages, et je me suis dit, bon, ben, si je veux écrire, dire tout ce que je veux dire, il faut que j'en écrive 9. Et d'ailleurs, j'ai écrit le 9e, et après j'ai cessé d'écrire parce que j'ai plus rien à dire avec des mots, voilà.
Mais c'est quasiment la logique de, enfin, la logique de construction de Tolkien. Alors, il y a eu un gros temps de préparation. En fait, vous êtes un Tolkien qui s'ignore.
C'est très grave.
Il y avait un gros travail de préparation en amont, et puis le Hobbit, qui n'avait pas grand-chose à voir avec ce qu'il avait écrit avant, et qu'il a fait en sorte de relier au reste avec le Seigneur des Anneaux. Donc il y a aussi comme ça des morceaux qui se mettent en place pour finir par constituer une totalité cohérente.
Et la petite marmotte.
Exactement. Oui, ça marche. Hein. Ken, combien de tomes sont prévus?
I will write 5. I'm working on the last now. And I actually, they market me as epic fantasy. These are techno thriller.
Yes.
More than of epic course. Fantasy. Yes. It's yes, more yes. about an act of terror mm-hmm. that they're trying to identify what the technology is that's destroyed this city. And all of the quests are really, they're not too much different from the quests in The Hunt for Red October.
Yes. So. Yes, it's in the future, in fact.
Ok, donc finalement, il y a normalement 5 tomes qui sont prévus. Je suis en train de travailler sur le 5e. Mais alors moi, ce qui est assez curieux, c'est qu'à chaque fois, on m'étiquette comme étant un auteur de epic fantasy, alors que pour moi, ce que j'ai écrit, c'est du techno-thriller. Donc c'est quelque chose qui a plus à voir avec finalement du post-apocalyptique. Évidemment, ça peut être considéré comme une quête, mais finalement, c'est davantage du thriller que de la fantasy.
C'était, il parlait de à la quête d'Octobre Rouge, à la
oui,
poursuite d'Octobre Rouge, c'est ça?
Oui, c'est ça. C'est plus dans la veine de à la poursuite d'Octobre Rouge que de Tolkien finalement.
But using the tropes of epic fantasy, the orphan yes. boy, the dashing prince, the dangerous spy, the hidden king, the girl
beautiful
king.
Princess.
Donc bon, bien sûr, on retrouve des tropes finalement de la fantasy épique comme le roi caché, comme voilà, il y a un certain nombre d'éléments de la fantasy épique qui se retrouvent là-dedans, mais c'est quand même davantage du thriller.
Et est-ce que vous pourriez nous éclairer sur la thématique religieuse des titres? Cantique, Requiem, Antiphon.
Je pense que c'est des titres français. Donc,
mais en France, je crois aussi.
C'est ça?
C'est ça en anglais.
Oui. Religious thing about the titles of your book mm-hmm. In France, in French, mm-hmm. But maybe in English also.
Yes,
well?
The yes. same titles mm-hmm. are in English.
Mm-hmm. Okay.
And in each book, there's a reason. but I was intentionally, because I'm telling a story about terrorism, in a. That's dressed up as fantasy, but really is post-apocalyptic. Mm-hmm. It's fantasy in the same way Bradbury is fantasy, because the technology is so far advanced. That it's Clark's third law. If you know that, right? Okay. Mm-hmm. I'm playing with the idea of religion as a tool and as a weapon. The Andro-Francines try to use it as a tool to preserve the knowledge of the past by creating. They're secular humanists who create a religious hierarchy with a pope and arch-engineers, arch-behaviorists, and then the Yazirites, who come into play in Cantique and Forward, are a blood cult, where the shedding of blood is the way that life is found.
Okay, you've said a lot.
Thank you, sorry.
J'ai pas le temps de tout noter, mais c'est pas grave. Il y a effectivement quelque chose d'intentionnel autour de la religion. Donc les titres anglais sont aussi les mêmes. Hein. Ils ont été traduits en français. Et en fait, chaque ouvrage traite un peu une thématique autour de ça. C'est finalement... ce que j'ai voulu écrire, c'est une histoire de terrorisme déguisée en fantasy, dans cette espèce de monde un peu post-apocalyptique. Mais en même temps, on est dans un futur si lointain que toute cette technologie peut paraître un petit peu de la fantaisie, comme par exemple chez Bradbury, c'est tellement loin que c'est toute cette technologie paraît un peu magique, paraît un peu... Je voulais montrer comment la religion pouvait être utilisée à la fois comme un outil et une arme, comme d'autres auteurs l'ont fait aussi, avec un certain nombre de cultes et de choses. Donc, Donc oui, effectivement, la religion, elle a une place et les titres ont été choisis pour ça.
Alors il y a notamment donc cet ordre des androfranciens dont il parlait qui joue un rôle important dans l'intrigue. Régis aussi, vous avez mis une théocratie assez au centre de votre construction, avec une inquisition très brutale, mais en même temps des personnages de prêtres, hein, de théocrates qui sont eux beaucoup plus du côté du bien et de la protection. Donc c'est aussi un aspect du monde qui vous semble incontournable.
Mais disons que sur cet aspect-là, alors les prêtres, hein, dans le livre s'appellent les théocrates. Hein, c'est tout un programme déjà. C'est-à-dire que rien que dans le nom, je considère qu'en gros, cette religion qui présente des similitudes avec la religion catholique a en gros un rôle de stabilisation sociale dans un modèle féodal. Voilà. Ce qui fait que derrière ça, le culte, c'est le culte du suprême. Bon, c'est un peu générique, mais c'est un monde générique, en quelque sorte. Hein. C'est un monde qui n'a pas de nom, avec des royaumes qui sont numérotés, qui n'ont pas de nom non plus, dans lesquels la religion porte un nom extrêmement générique, hein, et dans lesquels il y a une réflexion...
Dont la carte est très très simple.
Oui, la carte est très simple. Je reviendrai sur la carte après. Je ne peux pas laisser de dire des choses comme ça sans forcément me révolter un petit peu. J'ai un petit reste d'adolescent, moi. Quand même. Et donc, par rapport à tout ça, effectivement, c'est assez central, mais c'est assez central dans l'idée d'avoir un certain nombre d'ordres qui vont régenter un petit peu un fonctionnement social, qui vont être donc la noblesse, la religion, le tiers-état. On est quand même un petit peu dans un modèle d'organisation sociale médiéval, la fin du Moyen-Âge occidental. Ça reste un petit peu sur cet ordre-là, mais sauf que dans le livre, je pose un petit peu au fur et à mesure que l'intrigue se développe, comme étant une religion positive au sens où elle a été construite par les hommes. C'est-à-dire que c'est une invention pour faire passer finalement l'inadmissible. C'est assez proche de l'opinion que j'ai de la religion catholique, voilà, naturellement. Voilà, donc effectivement c'est central, mais parce qu'effectivement, dès qu'on se place dans un monde un petit peu médiéval, c'est une composante essentielle de la société. Et qui joue justement ses rôles de stabilisation. On ne trouve pas d'ailleurs de religion vraiment dans Le Seigneur des Anneaux, hein, pour revenir dessus, sauf qu'elle est un petit peu implicite. Elle est implicite, mais elle n'est pas aussi explicite. Il n'y a pas un modèle d'organisation sociale structuré autour de la question du religieux et de la croyance. Alors, s'agissant, pour revenir un petit peu sur ce qui venait d'être dit, sur la question un peu du kitsch et des figures récurrentes, des tropes, naturellement, mais c'est plus ça la fantaisie, c'est plus ça. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une telle diversité d'auteurs, une telle diversité d'approches, qu'on va retrouver bien sûr de la fantaisie à Dragon, hein, de la fantaisie à Anneau, mais en réalité, dans un livre comme celui-ci, ou dans tous les livres qui sont là-bas, la plupart des auteurs de fantaisie fabriquent aujourd'hui de la fantaisie sans elfes, de la fantaisie sans animaux magiques, sans dragons, sans... Alors bien sûr la carte. Bon, la carte, le problème c'est que par rapport au monde qu'on va mettre en place, si ça se passe en France, entre Épinal et Amiens, pour voir le trajet que j'ai fait aujourd'hui, effectivement il n'y a pas besoin de carte, parce que la carte existe. Bon, donc il suffit d'aller sur Google Maps et puis on va voir exactement par où il faut passer si on appelle, on tape Épinal et on tombe dessus. Le problème c'est quand on invente un univers, et si les personnages sont amenés à se déplacer dans cet univers. Eh bien, si on donne pas au lecteur un petit coup de main en lui donnant une carte en disant ben, « on part de là, on arrive là, voilà par où on est passé », on est parfois complètement perdu. Autrement dit, je ne pense pas que la carte, sur le plan identitaire, soit dans la fantaisie un trope qui vienne de l'héritage, tout simplement, de Tolkien. Il a une carte parce qu'il invente un monde. D'autres auteurs inventent des mondes. Il faut bien qu'on nous donne des outils pour nous permettre de nous véhiculer intellectuellement à l'intérieur du roman. Et je pense que la confusion, effectivement, quand on regarde un livre comme celui-ci, je suis là sous la main, on retrouve des chevaux. Voilà, et des chevaux, effectivement, il y a des chevaux chez Tolkien. Donc, est-ce que parce qu'on trouve des chevaux, c'est forcément tolkienien? Bon, ça relève un petit peu de la même logique. Il y a une carte, parce qu'on ne sait pas où on est si on n'a pas de carte. Voilà, je crois que c'est tout. Je pense que ce qu'on pourrait faire aussi, c'est mettre un calendrier pour dire un peu quand ça se passe, à quel moment se déroulent les choses. Ce serait un autre utilitaire, hein, un autre utilitaire qui permettrait de trouver des points de repère dans un monde qui, par nature, nous est étrange. Et voilà, donc ça, c'est un petit peu... mais je pense que derrière ça, il y a aussi chez nous une espèce d'obsession du classement, de la classification. C'est-à-dire que quand on va regarder une bibliothèque, les livres de fantasy d'il y a plus de 10 ans ou 15 ans sont classés en SF, parce qu'il n'y a pas cette classification SF et fantasy. Maintenant, on va les trouver dans un rayon spécifique sur la fantasy. Donc, quand on va chercher dans un rayon fantasy, on prend un bouquin, il y a un cheval, il y a une carte, c'est Tolkien. Et je pense qu'il y a derrière ça, ça ne reflète pas du tout la réalité de la création actuelle, je pense.
Est-ce que je peux ajouter un mot sur le calendrier, justement, parce que pour mon cycle Le rêve du démiurge, j'ai assez rapidement été obligé de faire pour moi un calendrier pour assurer la cohérence des événements, de l'âge de tel personnage à tel moment. Donc j'ai établi ce que j'appelais le grand calendrier que j'amplifiais à chaque nouveau roman, puisque j'introduisais de nouveaux personnages, donc il fallait que je sache qui était né à quel moment par rapport à qui, etc. Donc il y aura, quand il sera réédité entièrement, il y aura ce grand calendrier dans les appendices, parce qu'il m'a été nécessaire pour la cohérence de l'ensemble.
Donc on en revient aux appendices tolkiniens.
Je dirais bien sûr, j'ai un peu poussé le bouchon exprès pour que les auteurs s'expriment. Ce qui est intéressant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il semble qu'il y ait des choses incompressibles, c'est-à-dire qu'il y a des nécessités quand on se met à écrire un certain genre. Et là, par exemple, vous venez d'entendre carte calendrier. Voilà. Donc effectivement.
Et chevaux.
Et bon. Et arbres, bien entendu.
Non, ça commence pas par un C.
Ah. Donc effectivement, c'est ça que je trouve intéressant de constater, c'est qu'il y a une boîte à outils pour l'écrivain. Hein. Donc il ne faut pas effectivement jeter l'eau avec le bébé avec. Hein. Donc bien entendu, il y a certains impondérables, il y a certaines nécessités, et Tolkien, pour revenir à mon sujet d'étude, a travaillé ses calendriers, a travaillé jusqu'aux heures où les événements se passent. Dans ce qui est devenu l'appendice C, en fait, c'était quelque chose qui faisait une cinquantaine de pages où il est marqué que Aragorn se lève à 8 heures du matin et que Théoden s'en va à midi. Donc, vous voyez jusqu'à quel point certains auteurs peuvent aller pour faire, disons, décrire son monde. Et puis ensuite, bien entendu, c'est quelque chose qui ne transparaît pas du tout comme ça dans ces appendices où on a des petits résumés pour la journée et ce qui se passe dans le roman. Ça n'a aucune importance que le soleil se lève à telle heure ou se couche. On a l'impression, mais pour l'auteur, oui. Ça peut avoir une certaine importance dans son travail.
Il y a un autre élément qui est l'arbre généalogique. Je ne crois pas qu'il y en ait chez Tolkien.
Ah,
mais
bien sûr que si.
Bon, tu vois.
L'appendice bon. B.
Ah, très bien, alors. Parfait.
Moi,
je suis en train de lire les Rougon-Macquart de A à Z. Et c'est absolument indispensable d'avoir l'arbre généalogique qui s'étale sur 5 générations pour comprendre exactement tout ce qui se passe d'un roman à l'autre, faire les recoupements, savoir qui était la nièce de machin, pourquoi les rapports d'argent entre tel et tel se sont développés de telle manière, les atavismes, l'alcoolisme, la folie, etc. C'est indispensable. Ça a été indispensable, je pense, à Zola pour l'écrire, et c'est aussi indispensable au lecteur, parce que le tout est supérieur à la somme des parties. Hein.
Oui, la généalogie est la principale passion et la seule science du peuple hobbit, hein, qui en tient des énormes. En fait, voilà, Tolkien, c'est vraiment, il a donné en quelque sorte l'étalon presque inaccessible et très excessif du point de vue de ce qui se fait actuellement, de tous ces outils.
Oui, mais ça n'a rien de spécifique à la fantasy. Voilà. Puisque tu as la même chose chez Zola.
Il a fait seulement certains des aspects.
Oui, oui.
Toi, tu as fait seulement un calendrier, il a fait seulement une généalogie.
Ah oui, Tolkien a tout fait.
D'autres des cas. Bon, voilà, d'accord. Tolkien, c'est le monde, c'est le pack complet.
Je comprends pourquoi ça m'a tellement ennuyé.
C'est fascinant ou non.
Voilà, c'est ça. Surtout que chez Tolkien, le fameux appendice C n'a strictement aucune utilité, puisque 99% des personnages qui sont cités n'apparaissent strictement nulle part en dehors de l'arbre généalogique. On sait qu'elle est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Sam, mais il n'apparaît strictement nulle part.
Et alors, je vais demander maintenant à Ken quel usage il a fait de la boîte à outils Tolkien. Vous avez une carte?
Pardon, oui, excuse-moi, j'ai pas entendu.
J'allais demander à.
J'étais en train de lui expliquer.
Oui, c'est vrai. Je t'ai pas attendu. Je lui demandais quel outil il avait été prendre dans cette boîte à outils Tolkien. Il y a une carte.
Well, this works difficult. Because I think Dungeons and Dragons is derivative of Tolkien.
Of course, it is.
And Dungeons and Dragons is where I learned to make maps.
Okay. Non, mais ça, très, très bonne. Je ne l'ai pas posé.
Alors, c'est bah, par exemple, on peut dire qu'effectivement, Donjons et Dragons est dérivé de Tolkien. Et en fait, moi, c'est dans Donjons et Dragons que j'ai été chercher l'idée des cartes.
And I did not want to put a map in Lamentation, but my publisher asked because that's what fantasy readers expect. I've learned my lesson. I've working on the last book of 5 books. I had no maps in the beginning. I've been making them as I go with help from my dungeon master from 4th grade.
Alors par exemple dans Lamentation qui était le premier tome, au départ moi j'avais pas prévu de carte. Et en fait après coup quand l'éditeur a décidé de le publier, il m'a dit non, il faut une carte parce que les lecteurs de fantasy, ils ont besoin d'une carte, ils ont l'habitude. Alors bah moi après j'ai bien appris ma leçon, donc ensuite j'ai fait des cartes puisqu'il fallait des cartes. Et dans le tome 5 que je suis en train de rédiger, donc je suis en train de construire au fur et à mesure une carte. Avec l'aide de mon maître du donjon de jeu de rôle favori.
And I stayed very quiet as I finished books 3 and 4, and fortunately my publisher did not ask for a map. So they're...
Et alors dans le tome 3 et 4, j'ai rien dit. J'ai fait passer ça comme ça parce que j'avais pas mis de carte, et en fait l'éditeur a pas moufté, donc il y a pas de carte.
But for my next project, which I suspect that I will build my world as if it were a dungeon, and for me. And then, I get notes from fans that are upset if they don't see maps. Maybe I'll put them on my website. But.
Et donc, pour le prochain projet sur lequel je suis en train de travailler, où il va y avoir des donjons, etc., je vais certainement pour moi être obligé de me faire une carte. Et peut-être que si l'éditeur me la demande pas, je la mettrai peut-être sur le site internet pour que les lecteurs voient à quoi ça ressemble.
Merci à tous. Vous avez quelque chose à ajouter, je pense qu'effectivement, c'était bien de mentionner le jeu de rôle pour finir, qui est un des vecteurs de diffusion de l'imaginaire de fantasy à partir de Tolkien, qui est les plus importants. Et on voit bien qu'en général, très souvent, les auteurs citent le jeu de rôle comme influence directe plutôt que Tolkien.
Juste par rapport à la carte, parce que c'était une question un petit peu centrale, la carte c'est très important aussi parce que quand on se place dans un monde dans lequel la technologie n'est pas prépondérante, si on considère que les gens se déplacent en bateau à voile, à cheval ou à pied, en gros c'est ce qui reste, la carte c'est l'espace, et l'espace c'est du temps. Dès qu'on a un déplacement, effectivement, il y a une échelle sur la carte qu'on peut, même si on ne l'a pas forcément formalisée, mais quand on construit son récit, à un moment donné, si on a quelqu'un qui part d'un bout de la carte pour arriver à l'autre, si on décide qu'il faut par exemple un an pour la traverser, forcément ça a une répercussion sur le schéma narratif, c'est impossible de faire autrement. Et moi ça m'a permis de retravailler sur ma carte, de placer mes personnages et d'évaluer le temps qu'ils allaient mettre. Et ça, c'est extrêmement compliqué de fonctionner sans justement une représentation précise de l'espace, puisqu'on n'a pas d'avion. On n'a pas d'avion qui permet de raccourcir le temps.
Voilà. Ça, c'est quelque chose que Tolkien a fait et refait justement.
Tout à fait.
Il
a même calculé le temps de déplacement des Ents rapidement, pas rapidement. Enfin, vous avez des notes précises sur le déplacement de chacune des races avec leurs capacités. Donc,
c'était prévu.
C'était prévu. Tolkien a dit en fait qu'il vaut mieux faire une carte avant parce qu'après ça devient hell, comme on dit.
I learned this the hard way.
Ah oui, voilà, moi j'ai appris ça sur le terrain, à la dure.
On a 5 minutes pour prendre des questions dans le public, si vous voulez. Oui. Vous l'avez entendu ?
Oui.
À quoi ressemblerait une fantasy sans personnage de Tolkien ou sans si Tolkien n'avait pas existé ?
Ah bah ça c'est l'Uchronie là, c'est plus de la fantasy.
Un monde sans Tolkien.
Je dirais que Zelazny par exemple, je pense que c'est quelqu'un qui avec ses princes d'ambre a fait de la fantasy sans... Enfin, je n'y sens aucune Tolkienerie. De près ou de loin.
Oui.
Voilà. Moi, nous avons un autre exemple.
Il y en a plein d'autres hein, quand même. Il y a comme Fritz Leiber également qui est très intéressant, qui est plus ancien encore, puisqu'elle écrit dans les années 30-35 et qui apporte une vision beaucoup moins restrictive, plus libre et plus humoristique et plus légère. Mais en posant, d'ailleurs, Donjons et Dragons, ça vient aussi de Leiber, hein, essentiellement. Et donc, il y en a bien d'autres. Mais de toute façon, si on regarde bien, on parlait d'Homère tout à l'heure, entre les deux, il y a la Bible, entre, il y a plein de récits fantastiques intéressants et qui finalement tissent depuis certainement le début de l'humanité culturelle, en tout cas. Donc, un continuum dans le rapport à l'imaginaire. C'est pour ça que moi, je pense que Tolkien est intéressant parce qu'il a permis de faire un événement, en quelque sorte, un événement littéraire, un événement culturel, et qu'il nous marque encore aujourd'hui, mais que c'est pas lui qui a inventé Saint-Georges, donc les dragons lui ont été naturellement bien antérieurs.
Il y a le Kalevala, par exemple, enfin, toutes les grandes épopées nationales ou régionales, Gilgamesh, ce genre de choses, le chevalier à la peau de tigre.
Je pense que le principal apport de Tolkien, de mon point de vue, c'est d'avoir fabriqué quelque chose de très cohérent. De long et de très cohérent et de très pensé. Alors que chez Leiber, on a des nouvelles, parfois c'est un roman complet, puis ça continue dans des nouvelles. C'est-à-dire qu'il a pris les choses très au sérieux, et je pense qu'il a porté cette dimension du sérieux et de la cohérence, mais d'autres l'auraient fait à un autre moment. Par contre, il le fait aussi avec le regard de son époque. C'est-à-dire que c'est le regard de la guerre et de l'immédiate après-guerre dans lequel on a un monde extrêmement bipolaire dans lequel on va avoir des gens qui ont été vaincus. Il s'est passé énormément de choses dans cette période-là. Et je pense qu'aujourd'hui, par exemple, on ne peut plus écrire comme Tolkien parce qu'on n'est plus du tout dans un monde bipolaire, mais beaucoup plus multipolaire. Ce qui fait que ça ne génère pas du tout les mêmes récits, que ce soit en fantasy ou dans d'autres genres. Voilà.
C'est plutôt une remarque qu'une question. Francis Berthelot citait le mont Dakar pour donner un exemple sur la généalogie de la théorie de l'humanité. Et pendant la discussion sur la carte, j'ai penché à Michel Strogoff, que j'ai lu dans les mains de Jules Verne. Il y avait d'autres Jules Verne, Francis 5 semaines en ballon, quand il y avait, c'est pareil, l'époque des cartes. Et c'est sûr, aujourd'hui c'est pareil, tu dirais un petit peu de Google Maps, on peut se faire
Il y a d'ailleurs des livres, j'ai pas d'exemple qui me viennent à l'esprit, mais je sais que en lisant certains livres, je me suis dit, mais j'ai besoin d'une carte parce que je comprends pas où sont les endroits, donc je suis obligé de sortir mon atlas pour vraiment visualiser l'espace du roman.
Oui, c'est vrai que les cartes ne sont pas du tout réservées aux mondes imaginaires forcément, mais à tout exotisme. Et dans le cas de Jules Verne, il y avait une volonté très didactique de faire découvrir la géographie du monde aux jeunes lecteurs qu'il visait. Et effectivement, on avait encore à ce moment-là besoin de cartographier le monde qui était en voie d'être connu, quoi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a... On a un peu plus l'impression d'avoir fait le tour de ça et donc d'aller vers les mondes imaginaires. Bon, j'entends qu'il y a beaucoup de mouvements, donc peut-être que nous sommes censés...
Avant que les micros ne soient coupés, donc j'invite les personnes intéressées par apprendre les langues elfiques pendant 2 semaines. Je donne des cours à Bruxelles cet été, au mois d'août, donc pendant 2 semaines intensives. Et il y a d'autres cours aussi... qui ont lieu en même temps. Donc les personnes qui sont intéressées pour s'immerger totalement et absolument pendant 6 heures par jour et 2 semaines peuvent venir me voir. Ils ne seront pas enfermés immédiatement.
Et est-ce qu'il y a des cours pour dessiner des cartes aussi? C'est compliqué.
Ah, ça, il faudrait, mais je ne suis pas assez bon dessinateur. Il y aura des cours d'écriture aussi, mais...
I have a very interesting story about languages. And 7 months ago, I quit my day job, and before I quit, I worked in public procurement for Multnomah County. Mm-hmm. And do you want to?
You worked in?
Public procurement, government purchasing,
okay.
With bids and RFPs.
Okay.
And Multnomah County, several years ago, put an RFP, request for proposals, for human services, interpreters and translators. And they included Klingon because, for real reasons, there actually had been arrests made of people who refused to speak any language but Klingon. And so and it became a big debacle, but they were trying to, the love of the language was so prevalent that there were people who were refusing to speak it anything but that, and there was no way to, they wouldn't communicate, so they needed the translator paid for by government fees in Klingon. Huge scandal.
Bon, il y a quelque chose d'assez amusant. Il voulait parler d'une anecdote. Donc, il y a quelques mois encore, il travaillait dans un service gouvernemental où il s'occupait des achats, etc., etc. Et il a vu passer, en fait, une espèce d'annonce légale à l'intérieur des services où on cherchait des traducteurs de différentes langues parce que quand il y avait des arrestations de personnes qui ne parlaient pas anglais ou autre. Et notamment, il cherchait des interprètes en Klingon. Parce que il y avait des gens qui étaient arrêtés par la police et qui refusaient de parler autre chose que le Klingon. Donc il y a eu, ça a fait toute une histoire effectivement, parce que quand cette annonce-là est passée, elle a ensuite été diffusée sur Internet et par la presse, et où ça a fait beaucoup rire. Mais voilà, ils avaient besoin de gens qui puissent traduire le Klingon.
Donc et mon si prochain projet, ce sera bien sûr un dictionnaire Klingon elfique, c'est évident.
Merci, à bientôt.
Oui, ben...